La pierre traversa la fenêtre avant que David n'ait terminé sa lettre. Le verre éclata en une poignée d'éclats noirs. L'un d'eux lui mordit la joue. Il porta les doigts à sa peau et les retira couverts d'une goutte rouge, luisante comme de l'encre fraîche sur du parchemin. Sur la table, l'alef qu'il traçait depuis une heure resta inachevée, une seule ligne penchée, que personne ne finirait ce soir. Dans le coin de la pièce, Léa laissa tomber son cheval de bois et se mit à crier. « Au guet, bouton !» gémit-elle, comme si c'était le jouet qu'on venait de blesser et non la fenêtre. Grand-père Yankel se leva d'un bond, renversant son établi. Des lanières de cuir et des aiguilles roulèrent sur le sol dans un bruit sec. Il traversa la pièce en trois enjambées et saisit Léa contre lui avant même d'avoir regardé le trou béant dans le carreau. « Ogé reste derrière moi, David, Yeux, dit-il, la voix basse, sans trembler. David ne recula pas. Il ramassa la pierre, encore tiède d'avoir été serrée dans un poing, et la retourna entre ses mains. Une odeur de fumée entrait par le trou dans le verre, âcre, différente de celle du bois qui brûle dans un âtre. Elle sentait la paille, et quelque chose de plus mauvais que la paille. « Ogé, qui a fait ça ?»« demanda Léa, la voix pleine de larmes, mais pas encore de peur, juste de l'incompréhension d'un enfant devant une méchanceté sans visage. « Panan, us, adidindend !» Personne ne lui répondit tout de suite. Yankel passa un pouce rugueux sur le bras de Léa, cherchant une coupure, une marque, n'importe quoi, qui aurait pu justifier le tremblement de ses propres mains. Il n'en trouva pas. Elle n'avait rien, seulement la peur du bruit, et cela ne rassura pas le vieil homme le moins du monde. David, lui, tenait toujours la pierre. Elle n'avait rien de particulier. Un simple caillou du fleuve, gris et froid, du genre qu'on ramassait par poignées sur les berges de la Veltava pour les lancer dans l'eau en s'amusant. Ce soir, elle pesait plus lourd dans sa paume que n'importe quel outil de scribe qu'il avait tenu de sa vie. Il la posa enfin sur l'établi à côté des lanières de cuir renversées plutôt que de la jeter. Il ne savait pas pourquoi il la gardait. Plus tard, il se dirait que c'était pour se souvenir. Mais cette nuit-là, dans l'instant, c'était surtout parce que ses doigts refusaient de la lâcher. David avait 13 ans, et il savait déjà que la fumée ne ment jamais sur ce qu'elle brûle. Depuis deux hivers, il vivait avec Léa dans l'échoppe de reliure de leur grand-père, au fond d'une ruelle si étroite que deux hommes ne pouvaient s'y croiser sans se toucher les épaules. Leurs parents étaient morts de la fièvre la même semaine cette année-là, et David s'était juré, seul dans le noir de la chambre qu'ils avaient partagée, de ne plus jamais laisser mourir quelqu'un qu'il aimait. Il avait 7 ans de plus que sa sœur Pantoin. Il se comportait souvent comme s'il en avait 7 de plus que Yankel. Le vieux relieur avait les mains tachées d'encre et de colle jusqu'aux articulations, deux couleurs qui ne partaient plus, et une voix qui savait aussi bien gronder que consoler. Il élevait les enfants de son fils comme il reliait un livre abîmé, en resserrant chaque fil, un à la fois, sans jamais brusquer la couture. L'échoppe sentait la colle de peau chaude, la poussière de vieux cuir, et ce soir-là, quelque chose de nouveau et de froid. David, lui, apprenait à tracer les lettres hébraïques mieux qu'aucun autre garçon de son âge dans le ghetto. Le scribe du quartier, un homme sec du nom de Mendel, disait que sa main ne tremblait jamais sur le calame, même quand son cœur, lui, tremblait pour de bon. C'était son unique fierté avouée, la seule chose qu'il savait faire mieux que les autres. Il ne se doutait pas encore que cette même main allait bientôt le rendre dangereux, à lui-même et à tout ce qu'il aimait. Léa avait 6 ans et ne craignait presque rien, sauf le noir sous l'escalier et l'idée de perdre Bouton, son cheval de bois ébréché au museau, sculpté par un cousin parti vers l'ouest avant qu'elle ne sache marcher. Elle collait à David comme une ombre plus petite que la sienne. Cette nuit-là, elle serrait le cheval si fort contre elle que le bois laissait une marque blanche sur son avant-bras point. « Ogé, reste avec ta sœur, » dit Yankel, en confiant Léa à David. Ses mains, elles, tremblaient déjà en poussant le verrou de la porte intérieure. Plus tôt ce jour-là, avant que le soir ne tourne, David avait encore été un garçon comme les autres, assis sur le tabouret bas de Mendel, le scribe, à recopier des lignes de prière sur des chutes de parchemin trop abîmées pour un vrai livre. Mendel lui avait parlé, entre deux corrections, d'un attroupement près des remparts, d'un homme qui posait trop de questions sur les allées et venues du ghetto. David n'y avait pas prêté grande attention. Un scribe de 13 ans avait mieux à faire que d'écouter les rumeurs des adultes, du moins le croyait-il alors. Il comprenait à présent la bêtise tranquille de cette pensée, « Pointe-toi ». Dehors, on entend des courir. Pas le pas d'un enfant qui joue, ni celui d'un marchand qui rentre chez lui. Des pas lourds, plusieurs, qui martelaient les pavés inégaux de la ruelle avec quelque chose d'urgent et de mauvais dans le rythme. Une voix de femme criait un nom au loin, encore et encore, un prénom d'enfant chrétien que David avait déjà entendu prononcer dans la journée, à la fontaine, chez le boulanger, partout où les commerces s'attroupaient à l'eau. Voix basse. Un petit garçon du quartier au-delà des remparts avait disparu depuis 3 jours. On ne l'avait pas retrouvé. Ce n'était plus une rumeur de fontaine ce soir. C'était une pierre dans une fenêtre. Yankel entr'ouvrit la porte, juste assez pour voir. David se glissa sous son bras avant que le vieil homme n'ait eu le temps de le retenir. Un voisin, Reb Aaron le tanneur, passait devant chez eux en courant à moitié, une main pressée sur son chapeau pour l'empêcher de s'envoler. Il s'arrêta assez longtemps pour lâcher et souffler, le souffle coupant ses mots en deux. Aux gays, ils disent que c'est nous. Ils disent qu'on l'a pris pour son sang, pour la veille de la Toussaint. Yo, il cracha par terre, un geste qu'il n'aurait jamais fait devant des enfants en temps ordinaire. Obé, rentrez. On est entré. Rentrez et ne sortez plus ce soir. Joe. Léa, du fond de la pièce, appela d'une petite voix. Ega, on a pris, qui grand-père? Yo. Huguet personne, ma colombe. Yeu, dit Yankel, sans se retourner. Huguet personne de chez nous n'a pris personne. Rio. Yo. Mais sa main, sur l'épaule de David, se referma un peu plus fort, et David sentit dans cette pression tout ce que son grand-père ne disait pas devant Léa. Plus loin dans les ruelles, la boutique du cordonnier Isaac avait son enseigne de bois arrachée, pendue de travers par un seul clou, et des chaussures neuves traînaient dans le caniveau, piétinées, une semelle déjà, morcie par la boue. Une charrette abandonnée près du puits achevait de se consumer, ses planches réduites à un tas de braises grises qui crachait une fumée basse, roulant sur les pavés comme un brouillard sale brunquoil. L'odeur de suie s'accrochait au mur, aux vêtements, à l'intérieur du nez de David, où elle resterait longtemps après que la fumée elle-même aurait disparu. Personne ne s'arrêtait pour ramasser les chaussures. Isaac lui-même se tenait sur le pas de sa porte, les bras croisés sur la poitrine, comme s'il pouvait empêcher sa maison de se vider en se tenant simplement devant. David voulut s'approcher pour voir, mais Yankel le tira en arrière par le col. « Et abbé, ce n'est pas un spectacle, Yo, dit-il. Deux mots, une leçon entière. » C'était ainsi que parlait Yankel, peu de mots, mais qui pesaient longtemps après qu'on les avait entendus. Au bout de la ruelle, là où le ghetto s'ouvrait sur la petite place devant l'église, les torches se rassemblaient. David compta jusqu'à une dizaine, avant de perdre le fil, chacune tenue à bout de bras par un homme qu'il ne connaissait pas, un visage qu'il ne reverrait peut-être jamais, mais dont la colère, ce soir, appartenait à tout le monde. Un homme se tenait debout sur les marches de l'église, dominant la foule. Il était grand et maigre, la soutane noire trop courte pour ses jambes, comme s'il avait grandi depuis qu'on la lui avait cousue. Ses doigts étaient longs, presque sans chair, et quand il les levait vers le ciel pour appeler au silence, la foule obéissait aussitôt, comme un troupeau qui reconnaît la voix de son berger même dans le noir. David ne connaissait pas encore son nom. Il apprendrait bientôt qu'on l'appelait « Frère Thaddée ». L'homme souriait. C'était le détail que David retiendrait le plus longtemps, plus tard, bien plus que les mots eux-mêmes. Ce sourire doux, presque tendre, posé sur un visage qui annonçait la ruine d'un peuple entier. Une cicatrice pâle barrait sa main droite levée, une marque de brûlure ancienne. Et la lumière des torches semblait s'y accrocher plus qu'ailleurs sur lui, comme si le feu la reconnaissait. « Ogé, un enfant de Dieu a disparu, disait-il, sans crier, sa voix pourtant portée jusqu'au fond de la ruelle par le silence même qu'elle imposait. « Ogé, vous savez tous où l'on porte les enfants perdus dans ce quartier. Vous savez tous que leur rite exige à la veille de leur fête morte. « Yo, why ?» La foule gronda, un son bas, presque animal, qui fit reculer David d'un pas sans qu'il l'ait décidé. « Ogé, on me dit qu'il n'y a aucune preuve. » Yo, reprit Thaddée, et il laissa le mot flotter un instant, comme un hameçon. Ougué, mais l'absence de preuve n'a jamais été l'absence de crime. Elle n'est parfois que l'absence de courage pour la chercher. Des hommes hochaient la tête. Une femme, au premier rang, serrait un chapelet si fort que ses jointures blanchissaient. Un peu plus loin, un jeune garçon en surplis, un enfant de cœur d'à peine 10 ans, se tenait raide au pied des marches, les yeux fixés non pas sur la foule, mais sur frère Thaddée lui-même, comme s'il attendait un wow. Signal qui ne venait pas. David ne le remarqua qu'à peine, cette nuit-là, un visage pâle de plus dans une foule de visages tendus. David sentit sa bouche se remplir d'un goût de fer, comme s'il avait mordu l'intérieur de sa joue sans s'en rendre compte. Et au gué dans 5 nuits, Yo reprit frère Thaddée, et sa voix se fit plus douce encore, ce qui la rendait pire. Yo gué dans 5 nuits, ce sera la veille de la Toussaint. La nuit où les morts reviennent chercher ce qu'on leur doit. Je ne laisserai pas cette nuit-là se lever sur un crime impuni point ni, ni sur un deuxième. Yo, il n'en dit pas plus. Il n'en avait pas besoin. Un murmure d'assentiment parcourut la foule, plus terrible que n'importe quel cri, parce qu'il était calme, parce qu'il ressemblait à une décision déjà prise. Une voix s'éleva pourtant, quelque part sur le côté de la place. Un homme du ghetto qui avait risqué de se montrer à découvert. « Ogé, nous n'avons touché à aucun enfant. » « Oh » cria-t-il, la voix cassée par la peur autant que par la colère. Deux hommes de la foule l'empoignèrent avant qu'il ait pu dire un mot de plus. Et frère Thaddée, sans même baisser les yeux vers lui, continua de sourire vers le reste de son public, comme si l'interruption n'avait été qu'un moucheron chassé d'un revers de manche. Yankel referma la porte d'un geste sec, poussa la barre de bois dans ses crampons, et pour la première fois depuis que David le connaissait, ses mains tremblaient en le faisant. David resta collé contre le bois de la porte, écoutant les torches s'éloigner vers une autre rue, une autre porte, une autre famille qui n'avait rien fait non plus. Ses mains étaient moites contre ses cuisses. Sa bouche gardait ce goût de fer, et ses genoux, quand il essaya de faire un pas vers le feu, se dérobèrent presque sous lui, comme s'ils avaient oublié comment porter son poids. Il compta, à voix basse, jusqu'à 10, puis jusqu'à 20, la manière qu'il avait de tracer les points d'une lettre pour se calmer quand les mots ne suffisaient plus. Léa, elle, ne pleurait pas. Elle regardait la porte fermée avec de grands yeux fixes, boutons pressés contre son ventre. Et ce silence-là faisait plus peur à David que n'importe quel cri. Ogé, pourquoi il a dit 5 nuits ? Yo, demanda-t-elle enfin, d'une petite voix aiguë et directe, comme seuls les enfants savent poser les questions qui font le plus mal. David ouvrit la bouche pour répondre, mais rien n'en sortit. C'était Yankel qui reprit la parole, en s'agenouillant devant elle, ses vieux os craquant dans le silence de la pièce. « Ogé, parce que dans 5 nuits, ce sera l'Halloween, ma colombe. La veille de la Toussaint. Une nuit où les gens ont peur, et où la peur leur fait dire des choses qu'ils regretteront. Yo, il lui caressa les cheveux. « Ogé, mais cette maison tiendra jusque-là, je te le promets. Yo, ah. » Ils passèrent le reste de la soirée à réparer ce qui pouvait l'être. Yankel cloua une planche sur le carreau brisé, ses gestes plus lents que d'habitude, comme si chaque coup de marteau lui coûtait un effort qu'il ne montrait à personne. David balaya les éclats de verre à la lueur d'une chandelle de suif dont la cire chaude coulait sur ses doigts et se figeait en petites perles jaunes sur sa peau. Il ramassa aussi son alef inachevé, la feuille tachée par une goutte de sang tombée de sa joue avant qu'il n'ait pu l'essuyer, et la glissa sous une pile d'autres pages sans savoir pourquoi il tenait à la garder. L'odeur de fumée, dehors, ne partait pas vraiment. Elle s'était seulement éloignée, comme un chien qui rôde encore quelque part dans la nuit. « Ogé, grand-père !» Yeux dit David, en tendant à Yankel un dernier clou. « Ogé, ils vont vraiment croire qu'on a fait du mal à cet enfant ?»« Yoï !» Yankel enfonça le clou avant de répondre. 3 coups secs et précis. Ogé, les gens croient ce qui leur fait le moins peur à admettre. Yo, dit-il enfin. Ogé, il est plus facile de croire qu'un voisin est un monstre que d'admettre qu'un enfant s'est simplement perdu, ou pire. L'eau, il posa le marteau. Ogé, ça ne les rend pas moins dangereux, David. Ça les rend juste plus tristes à regarder. Oh, Ogé le guet ne fera rien. Oh, demanda David. Les gardes de la ville passaient parfois en soirée, à cheval, sans jamais s'arrêter du côté du ghetto plus longtemps qu'il n'en fallait pour traverser. « Ogé le guet protège ceux qui payent le guet, Owe répondit Yankel, sans amertume apparente, comme s'il énonçait un fait aussi banal que la couleur du ciel. « Ogé, nous payons nos taxes. Nous ne payons pas le guet. » Yo, il rassembla ses clous restant dans une bourse de cuir. « Ogé, une porte solide vaut mieux qu'une promesse de soldat, mon garçon. » Retiens ça. Yo, quand tout fut calme, ou du moins aussi calme que le permettait la nuit, Yankel installa Léa sur la paillasse qu'elle partageait avec David, dans le renfoncement derrière l'atelier. Elle refusait de lâcher Bouton, qu'elle tenait comme on tient la seule chose qui n'a pas changé dans une soirée où tout avait changé. « Ok, grand-père !» dit Léa, sa voix redevenue toute petite. « Arga, est-ce qu'ils vont revenir casser la fenêtre ?»« Oh, yo !»« Ok, pas cette nuit !» répondit Yankel, en lui remontant la couverture jusqu'au menton. « Ok, cette nuit, la maison tient. Ok, et s'ils reviennent une autre nuit ?» Yankel s'assit au bord de la paillasse, ses genoux craquant comme du vieux cuir. Il prit un moment avant de répondre, un moment que David remarqua, parce que son grand-père ne cherchait jamais ses mots d'ordinaire. « Ok, alors le gardien nous protégera, dit-il enfin, presque malgré lui, comme si les mots lui avaient échappé, plus qu'il ne les avait choisis. Léa se redressa d'un coup, tout son corps réveillé par ces trois mots. « Ok, quel gardien ?» dit. David aussi se redressa sur son tabouret près du feu. Il n'avait jamais entendu son grand-père prononcer ce mot avec cette gravité-là, ni ce silence qui suivit, comme si Yankel regrettait déjà d'avoir parlé. Avant de répondre, le vieil homme porta la main à sa gorge, où pendait sous sa chemise un petit carré de tissu cousu, un talisman hébraïque qu'il portait depuis plus longtemps que David n'était en vie. Il le tint un instant entre deux doigts tachés d'encre, comme on vérifie qu'une chose est toujours là, avant de parler d'une autre. « Ok, une vieille histoire, » dit Yankel, trop vite pour que ce soit vraiment une vieille histoire. Il regarda le feu plutôt que les enfants, et ses doigts tachés d'encre se mirent à tourner sans but l'anneau de cuivre qu'il portait depuis toujours. Ok, on dit que sous les toits de la vieille nouvelle synagogue, dans le grenier qu'on ne visite jamais, dort un géant fait de l'argile de la Veltava Pointoin. On l'appelle Yossel. Rabbi Louin, notre grand rabbin, l'a façonné il y a bien longtemps pour veiller sur nous dans les nuits comme celle-ci quand il y est. Yo. Ok, un géant debout. Yo, Léa fronça le nez, davantage intrigué qu'effrayé. Ok, il dort ou... Exactement. Il est gentil? Yo. Ok, assez de questions, ma colombe. Yankel lui posa une main sur le front, un geste plus tendre que sévère. Ok, dort. Maintenant. Un géant qui dort n'aime pas qu'on parle trop fort de lui. Yo. Mais David, lui, ne comptait pas laisser tomber si facilement. Ok, comment on le réveille? Yo, demanda-t-il, la question sortant de lui avant même qu'il ait décidé de la poser. C'était sa manière à lui de dire qu'il avait déjà trop envie de savoir. Yankel tourna la tête vers son petit-fils, et pour la première fois de la soirée, il eut l'air vieux. Pas fatigué. Vieux, comme quelqu'un qui a porté un poids si longtemps qu'il en a oublié la forme de ses propres épaules sans lui. « Ok, ce n'est pas une question à poser, » dit-il. « Ok, c'est une question à laisser dormir. »« Yosho. »« Ok, mais il dort vraiment ?»« insista David, la voix un peu trop haute pour l'heure et pour la pièce. « Ok, ou il attend juste que quelqu'un... »« Ok, David. » Yo, le ton de Yankel coupa la phrase nette, plus sec qu'aucun mot qu'il ait utilisé ce soir-là. Puis il se radoucit aussitôt, comme s'il regrettait déjà sa dureté, et se pencha vers le feu pour y jeter une bûche qui n'en avait pas besoin. « Ok, un golem ne dort jamais, petit ?» Yo, dit-il enfin, si bas que David dut se pencher pour l'entendre. « Ok, il attend. Et ce qui attend depuis si longtemps ne se réveille pas pour une pierre dans une fenêtre. Il faut bien plus que ça, et bien pire que ça. Prie pour ne jamais avoir à le découvrir. » Yo, Ok, grand-père. » Yo, insista David une dernière fois, malgré le regard que lui lançait Yankel. Yogé, tu l'as déjà vu? Yorche. Yankel resta silencieux si longtemps que David crut qu'il n'obtiendrait pas de réponse cette nuit-là. Quand le vieil homme parla enfin, sa voix n'avait plus rien de la douceur qu'il gardait pour Léa. Ogé, on ne pose pas la question à un vieil homme s'il a déjà vu la mort. Yo, dit-il. Ogé, on la lui laisse et on prie pour ne jamais la voir soi-même. Maintenant, dors ou fais semblant, ça suffira. Yo, Il se leva, rangea deux outils qui n'avaient pas besoin d'être rangés et refusa de croiser le regard de David pour le reste de la soirée. Léa, elle, s'était déjà glissée dans le sommeil, bouton calé sous son menton, comme si le mot « Yaba gardien Yo » avait suffi à la rassurer plus que n'importe quelle porte barrée. David resta longtemps près du feu après que Yankel fut allé se coucher de l'autre côté du rideau qui séparait leurs deux coins de la pièce, écoutant les braises craquer et s'effondrer lentement sur elles-mêmes. Par la fente entre les planches fraîchement clouées sur la fenêtre, il pouvait voir un morceau de ciel noir et, plus loin, la masse sombre d'un toit plus haut que les autres, celui de la vieille nouvelle synagogue, dont la pointe se découpait contre les étoiles comme une lame retournée vers le bas. Il pensa aux mots que son grand-père avait laissé échapper. Yossel. Il le répéta trois fois dans sa tête, sans bouger les lèvres, comme on apprend une lettre nouvelle avant de savoir la tracer soi-même. Cinq nuits. C'était ce que frère Thaddée avait promis à sa foule, debout sur les marches de l'église, son sourire doux posé sur eux comme une bénédiction empoisonnée. Cinq nuits avant que les torches ne reviennent, pas pour briser une fenêtre cette fois, mais pour ouvrir une porte, et peut-être plus qu'une porte. David regarda Léa dormir, sa respiration régulière, une mèche de cheveux collée à sa joue par la chaleur du feu mourant. Il regarda ensuite la porte que son grand-père avait barrée et qui ne tiendrait pas longtemps contre des hommes armés de torches et de certitudes. Il pensa à Isaac le cordonnier, debout devant sa boutique éventrée, les bras croisés sur rien. Il pensa à la charrette qui brûlait encore, quelque part au bout de la ruelle, et à l'enfant de cœur au pied des marches, dont le visage blanc ne quittait pas ses pensées, sans qu'il sache pourquoi. Il repensa aussi à son aleph inachevé, cette unique ligne penchée sous la pile de pages H. Un scribe apprenait à tracer des lettres qui portaient un nom sacré sans jamais oser les écrire lui-même en entier, par respect, par prudence. Mendel le lui avait enseigné comme une règle parmi d'autres. Cette nuit-là, pour la première fois, cette règle ne ressemblait plus à une leçon de calligraphie. Elle ressemblait à un avertissement. Il se jura, sans un mot, sans même remuer les lèvres cette fois, qu'il apprendrait ce que son grand-père refusait de lui dire. Pas pour devenir un héros, il n'y pensait même pas en ces termes. Pour que la prochaine pierre ne trouve personne à blesser. Pour que Léa garde ses grands yeux fixes et calmes. Et non ces yeux-là remplis de la peur qu'il avait vue ce soir sur le visage des voisins. Il savait où chercher. La vieille nouvelle synagogue n'était qu'à quelques ruelles de là. Et son grenier, quoi qu'on lui en ait dit, restait un lieu qu'on pouvait atteindre avec des jambes de 13 ans et assez d'entêtement. Il ne savait pas encore ce qu'il ferait une fois devant cette porte verrouillée. Il savait seulement qu'il ne pourrait plus, désormais, s'endormir sans y penser. Sur l'établi, dans le noir, la pierre du fleuve restait posée là où il l'avait laissée, à côté de son aleph inachevé. Deux objets froids, l'un qui avait failli blesser sa sœur, l'autre qui portait la première lettre d'un nom qu'on ne prononçait jamais en entier. David ne les voyait plus depuis sa paillasse, mais il savait qu'ils étaient là, et cela suffisait à empêcher son esprit de se poser tout à fait. Avant de fermer les yeux, il jeta un dernier regard vers la fente entre les planches. Le toit de la synagogue se découpait toujours contre les étoiles, immobile, comme il l'avait toujours été depuis que David savait regarder. Mais l'espace d'un souffle, juste avant que ses paupières ne se ferment pour de bon. David crut voir quelque chose bouger le long de cette arête sombre, très lentement, comment ? Une chose qui remue dans son sommeil, sans se réveiller tout à fait. Il se dit que c'était un oiseau. Il se le répéta jusqu'à ce que le sommeil l'emporte, et il ne sut jamais, cette nuit-là, s'il y avait vraiment cru.